Bonjour, je suis le docteur donc Laurence Pesquet, je suis médecin généraliste et médecin du sport. Et donc je vais intervenir ce soir sur l'IVG, une intervention pas comme les autres, donc au travers de quatre points, la loi Veil, le désengagement, l'échographie et l'avortement thérapeutique. Donc la loi Veil, c'est vrai que depuis ce début d'après-midi, on en a quand même déjà beaucoup parlé. Donc peut-être quelques rappels. C'est vrai que la loi Veil, donc la première, hein, en janvier 1975, a dépénalisé donc l'avortement et elle a permis de médicaliser ce geste. Elle autorisait l'interruption de grossesse pour une grossesse de 10 semaines ou 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 12 semaines de retard de règles. Et elle avait mis en place donc toute une procédure qui comportait un entretien médical avec une période de réflexion, mais aussi un entretien à caractère social. Elle comprenait surtout l'obligation des femmes en matière de contraception et un article donc de la loi stipulait qu'en aucun cas, l'IVG ne devait constituer un moyen de régulation des naissances. Donc en fait, cette loi proposait une attitude palliative à un instant T pour une problématique d'une femme ne voulant pas conserver sa grossesse. Mais l'idée, au départ, c'était de développer, de mettre en place le préventif pour éviter de se retrouver en situation de mettre en place une IVG. Le problème des dépassements de date donc, s'est vite posé, d'autant plus que les pays qui sont autour de nous n'ont pas forcément les mêmes délais de prise en charge. Donc l'Italie, Grèce, 10 semaines d'aménorrhée pour la prise en charge, c'est plus court que nous. Belgique, Allemagne, Portugal, 12 semaines. L'Espagne, où s'effectue donc la plupart aussi des IVG au départ de la France en dépassement de délai. Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, 22 semaines. Donc chaque année, des femmes qui étaient en dépassement de délai, et donc encore à l'heure actuelle, sont parties avorter pour celles qu'ils pouvaient, bien évidemment, parce que c'est un problème de finance, à l'étranger avec des informations données en France même. Donc la modification de la loi Veil et son extension du délai légal à 14 semaines d'aménorrhée, elle a donc donné son aval à une pratique qui était déjà en place et elle a permis pour ces femmes qui faisaient des interruptions de grossesse hors délai, donc hors la loi, de les effectuer dans le cadre de la loi. Le problème de la loi Veil, c'est qu'on s'est attaché à mettre en place donc, des techniques médicales et l'application de ces techniques médicales, c'est-à-dire répondre par un nombre de centres d'interruption de grossesse en nombre suffisant aux besoins des femmes et surtout s'attacher à respecter les délais. Donc on est resté sur le côté technique et c'est ce qu'on disait en début d'après-midi. On n'a pas cherché à développer, je dirais, le côté psychologique et à donner plus de moyens pour la prise en charge psychologique. Et dans ce même esprit de respect de la loi, c'est-à-dire respect des délais de prise en charge, on a allégé donc la semaine de réflexion. Et l'entretien donc, qui était à caractère social est devenu facultatif et mis en place en fonction, je dirais, de l'orientation du centre d'IVG. Et on se rend compte sur le terrain qu'il y a des grandes disparités entre certains centres hospitaliers où il va y avoir quand même une structure avec un entretien psychologique, avec des personnes habilitées à aider la femme, et d'autres endroits où il n'y aura pas forcément cette structure mise en place. Donc le problème de la loi Veil, il est sur le fait de ne pas avoir donné les moyens, je dirais, supplémentaires pour développer ce côté psychologique. En même temps, on sait très bien que ce n'est pas par une loi et par un entretien à caractère obligatoire qu'on interviendra au niveau des femmes et au niveau de la réflexion sur l'interruption de grossesse. Mais c'est peut-être aussi par une réunion comme aujourd'hui, d'échange avec une information qui petit à petit va passer par, bien sûr, tous les professionnels concernés dans ces structures, puis va gagner, je dirais, le public, qu'on pourra petit à petit dédramatiser le côté psychologique et travail sur l'IVG, de façon à ce que ce soit quelque chose qui soit mis en place par un plus grand nombre de femmes, au lieu d'avoir, je dirais, peut-être un phénomène d'évitement de temps en temps, et le plus souvent. Concernant les mineurs, pour les interruptions de grossesse, donc sans possibilité d'accord parental, c'est vrai que l'extension de la loi permet maintenant à un adulte proche de la mineure ou un membre de l'association de soutien et de protection des mineurs de suppléer au consentement parental. Donc si l'on prend le rapport Nissan de février 1999, on pouvait observer donc une très légère baisse du nombre d'IVG, en augmentation actuellement, mais du fait de la récupération de ces grossesses entre 12 et 14 semaines qui étaient initialement envoyées à l'étranger. Donc on n'a pas, je dirais, une flambée du nombre d'IVG, mais on n'a pas non plus une baisse particulièrement significative. Donc la législation de l'avortement n'a pas entraîné donc sa banalisation, pas plus qu'elle n'a conduit au relâchement de la contraception, mais on n'a pas eu une observation d'une diminution significative du nombre d'IVG. Les problèmes de contraception demeurent les mêmes, c'est toujours des histoires de contraception mal supportées, prise de poids sous pilule, nausées, migraines, la femme a mal aux jambes, le stérilet qui est mal supporté avec des hémorragies, ou alors c'est la pilule qui va être mal prise, une contraception par exemple de vacances, où la jeune femme part en vacances, elle oublie sa pilule, donc pendant 8 jours elle ne prend rien. Elle ne met pas en place de système contraceptif efficace, elle vit ses vacances. Ce qu'on a souvent aussi au cabinet, c'est des femmes qui viennent expliquer qu'elles vont faire un break de la pilule pendant 1 mois ou 2 pour nettoyer le corps. Ça, ça se fait beaucoup. Et pendant ce temps-là, elles s'organisent comme elles peuvent. Ça reste très aléatoire au niveau de la protection. Et vous avez aussi la femme qui a essayé, je dirais, 8 pilules différentes à la suite, qui à chaque fois a une intolérance à la pilule, donc sur des problèmes de poids, de migraines, de nausées, qui après va essayer le stérilet, va se retrouver à saigner très fréquemment tous les 15 jours, elle craque, elle arrête tout. Et elle réfléchit. Pendant ce temps-là, elle ne met pas spécialement en place de système contraceptif. Parce qu'en fait, au conscient, sur un système de rationalisation, il n'y a pas de désir d'enfant, il n'y a pas de désir de grossesse, pour des raisons d'âge, pour des raisons de nombre d'enfants déjà en place au sein de la famille, pour des problèmes affectifs, des problèmes financiers. Mais l'inconscient, lui, peut être positionné sur un désir d'enfant, et compte tenu qu'en général, dans ces cas-là, il n'y a pas une contraception particulièrement efficace, là, on peut se retrouver sur une grossesse mise en place. Pour un inconscient, compte tenu de la sexuation en tant que femme et donc de sa réalité corporelle de contenant, le désir d'enfant, au niveau inconscient bien évidemment, va s'exprimer par un désir de maternité et de grossesse, parce qu'il va permettre symboliquement de récupérer le phallus perdu. Donc la femme, de par la castration symbolique, donc a perdu symboliquement bien évidemment le phallus, et elle va le récupérer soit par le rapport sexuel, soit par la grossesse, où à ce moment-là, l'enfant devient fantasmatiquement le phallus. Ce qui fait que donc il y a, je dirais, des accords possibles entre conscient et inconscient, et lorsque le principe donc de réalité va s'imposer par des nausées, par une absence de règles, un test de grossesse positif, un examen médical, en général, on a désarroi et panique qui vont s'instaurer le plus souvent, et culpabilité aussi. Avant de prendre sa décision, la femme peut choisir soit de venir en discuter au cabinet, ce qui n'est pas du tout systématiquement le cas, seule ou avec son partenaire. Elle peut se tourner aussi vers des amis qui ont vécu la même expérience avec toutes les projections que cela génère au niveau du conseil des amis. Et elle peut choisir aussi de rester seule avec sa problématique. Donc c'est à ce niveau-là, et bien évidemment sur cette période, qu'il faudrait qu'il y ait une facilité d'entretien sur le plan psychologique et analytique si possible, pour commencer à travailler sur ce désir d'enfant, l'expliciter, et pouvoir situer cette grossesse et cette demande d'interruption de grossesse dans le vécu de la femme. Donc une démarche à, je dirais, dédramatiser au niveau du tout public, et auquel il faudrait donner des moyens nécessaires. Donc ça permettrait donc de commencer à donner un sens à cette grossesse en l'inscrivant à l'instant où la situation se produit dans l'environnement social, familial et économique au travers du vécu de cette femme et en prenant en compte son héritage transgénérationnel. Elle pourrait également aider dans un premier temps à une renarcissisation de la patiente. Alors, peut-on effectivement considérer l'IVG comme un désengagement ? Il est vrai que le terme « désengagement » renvoie à la notion d'arrêt, de suspension d'un projet au manque, avec une réalité corporelle qui va passer donc par le geste technique médical, mais par les effets secondaires lorsque la femme rentre à la maison, qui sont donc les saignements, les douleurs au ventre, que la patiente ne peut pas occulter et qui vont donc la renvoyer automatiquement sur le plan psychologique à cette notion de contenant vide, avec sa souffrance, et à la culpabilité. Donc c'est bien l'arrêt d'un projet qui est mis en place par rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, le partenaire, mais au niveau inconscient, le partenaire n'étant jamais dans cette situation-là que le miroir de nous-mêmes, il s'agit donc d'un désengagement par rapport à nous-mêmes. Donc, un désengagement sur ce désir d'enfant inconscient qui peut s'entendre donc comme un refus de cette féminité avec cette spécificité corporelle de contenant, d'intériorité, donc une difficulté de positionnement sur son imago féminine. Donc c'est Jung qui a surtout développé le concept d'imago, en ce sens qu'au stade phallique, l'enfant a deux imagos, a deux identités. Une identité en tant qu'il est identique à maman, c'est l'imago féminine. Une identité en tant qu'il est identique à papa, c'est l'identité masculine. Puis l'enfant va refouler symboliquement l'imago, qui n'est pas en accord avec sa spécificité corporelle, donc l'imago masculine pour la petite fille. Donc refuser une grossesse pour un inconscient peut s'entendre comme refuser d'être une femme, mais par dépit de ne pas être un garçon. C'est toute la difficulté donc de ne pas avoir été le garçon, de ne pas avoir le phallus. L'inconscient peut être en confusion sur phallus égale pouvoir et va rester fixé sur la perte du phallus et sur la quête de celui-ci. Donc une difficulté d'accord avec un principe féminin passif. Donc c'est vrai que la grossesse permet de récupérer le phallus, mais donc cet enfant qui devient le phallus symbolique peut en même temps au niveau inconscient renvoyer donc à l'enfant œdipien, donc l'enfant de l'inceste. À ce moment-là, l'inconscient se heurte au tabou de l'inceste et donc va éviter la grossesse. Et si quête du phallus y a, elle ne s'exprimera pas par la grossesse, mais par d'autres systèmes. Donc on peut parler de désengagement, mais au niveau linguistique, on peut aussi entendre dans ce terme engagement. C'est-à-dire s'engager dans une interruption de grossesse par rapport à un choix quant à soi. Donc mettre en place en situation, dès la découverte de cette grossesse, un travail de réflexion avec un professionnel à poursuivre bien évidemment après, de façon donc à donner sens à cette grossesse, analyser notre propre positionnement en tant que mère, étudier l'image fantasmatique engrammée de notre mère et voir un petit peu dans la fratrie les répétitions d'IVG qui soient dites ou non dites. C'est choisir aussi de ne pas mener à terme une grossesse que l'on estime mal positionnée pour l'enfant, mais en analysant ce désir d'enfant inconscient. Donc un travail d'accompagnement et d'éclairage sur soi-même qui va permettre une diminution de la culpabilité et d'éviter peut-être les compulsions de répétition déjà pour soi-même. Donc les exemples de répétition de compulsion, on en a beaucoup. Moi j'en ai deux en tête, donc c'est une amie effectivement qui est mère de trois enfants. Le troisième enfant sur un premier ménage, le troisième enfant était accidentel entre guillemets. Le couple a décidé de garder l'enfant et s'est séparé un an après. Elle a eu un quatrième enfant sur un deuxième couple. À partir de là, elle a développé une nouvelle grossesse un an après et sur des processus de rationalisation professionnelle, affective, nombre d'enfants déjà dans la famille, complexité, je dirais, des situations parentales, elle a opté pour une interruption de grossesse mais a mis en place un stérilet. Un an après, elle a développé une nouvelle grossesse sur stérilet. Donc il y a eu compulsion de répétition, il y a eu une nouvelle interruption de grossesse pour les mêmes raisons que la première fois, avec une souffrance beaucoup plus importante, une culpabilité encore plus. Bon, depuis, elle a attaqué un travail d'analyse, donc elle est actuellement en analyse et elle commence à travailler sur ce qui s'est passé dans sa vie et sur tout le reste, bien évidemment, pas spécialement les interruptions de grossesse. Et elle n'a pas la notion, à ce jour, en tout cas, d'interruption de grossesse pour sa mère. Donc elle recherche parce qu'il y aurait un secret, un non-dit. Entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que les deux années qui ont suivi la dernière interruption de grossesse, elle s'est trouvée amenée à accueillir chaque année sur une durée de 9 mois, donc le temps d'une gestation, son neveu avec une prise en charge affective, financière totale, donc comme une mère, et son frère pour les mêmes raisons l'année dernière. Donc elle a effectivement quelque chose à comprendre sur ce sujet. L'autre exemple, il porte sur une patiente que je suivais donc il y a à peu près 2 ans, qui après, il y a eu une interruption dans le suivi médical. Elle est venue un samedi matin, un samedi midi, en catastrophe au cabinet, parce qu'elle se sentait enceinte, elle désirait mettre en place une interruption de grossesse, mais il y avait discordance entre 2 tests sanguins de grossesse et l'échographie qui avait été effectuée n'avait pas retrouvé l'embryon. Et ce qu'elle voulait, c'était profiter de la pilule abortive. Donc on était sur des limites de date, toujours pareil, dans l'urgence, ce qui est assez fréquent. Compte tenu de son désarroi, des problèmes de date, je l'ai adressée un samedi après-midi sur un service d'urgence de gynécologie en expliquant dans une lettre le pourquoi de cette démarche, de façon à l'aider, je dirais, à faire le point et à se situer. Donc il y avait grossesse, il y a eu interruption de grossesse. Indépendamment, donc, il y a eu donc, ça c'était la première interruption de grossesse, et je l'ai revue là, il y a très peu de temps avant la conférence, avec un nouveau partenaire. Donc, premier partenaire, un enfant, une interruption de grossesse. Deuxième partenaire, une enfant, une demande d'interruption de grossesse sur une nouvelle grossesse. Je ne sais pas leur décision, ce qu'on a discuté un petit peu au cabinet, je ne les ai pas revus. Mais indépendamment de la compulsion de répétition qu'il y a, là, ce qui est intéressant, c'est le problème qui a été rencontré avec l'échographie. Puisqu'en fait, ils démontrent que l'échographie n'est jamais qu'un écran avec ses limites, et que l'inconscient de cet enfant, donc sur la première interruption de grossesse, s'est débrouillé pour masquer ce début de grossesse. Donc il est vrai que l'échographie, c'est une technique performante, qui est d'un apport non négligeable dans le suivi d'une grossesse et dans le diagnostic prénatal, mais ce sont d'ailleurs ces progrès en matière d'échographie qui ont donné lieu à de nombreux départs, dans le cadre de l'extension de la loi Veil, pour la période de 12 à 14 semaines d'aménorrhée. En effet, le professeur donc Israël Nizan, qui était chargé par la ministre Martine Aubry d'établir en 1999 le rapport sur le délai d'extension de l'IVG, qui était au départ favorable donc à cet allongement, a finalement changé d'opinion par crainte d'une dérive eugénique. Le problème, c'est que la première échographie de grossesse s'effectue en général vers la 12e semaine d'aménorrhée. Donc c'est vrai qu'elle permet la recherche de certains risques de malformations chromosomiques, notamment par la mesure de la clarté nucale, et elle permet aussi le dépistage de certaines malformations mineures des membres. Donc ça peut être des absences de doigts, ça peut être des problèmes concernant une main. Avant l'extension de la loi Veil, cette échographie donc avait lieu à 12 semaines d'aménorrhée et on se trouvait de toute façon sur la date butoir du délai légal d'IVG, donc il n'y avait pas possibilité d'avoir recours à une IVG. Donc il y avait mise en place d'un suivi d'une grossesse à risque avec l'intervention de morphogénéticiens pour voir ensuite préciser, je dirais, l'anomalie, voir si celle-ci était plus importante que prévu et mettre en place ou non un avortement thérapeutique. Actuellement, compte tenu qu'on va mettre en place cette échographie et qu'on a encore 15 jours derrière pour faire un avortement, c'est vrai qu'il peut y avoir tout à fait déclenchement d'un avortement, je dirais, à la hâte, pour des malformations mineures, donc un risque de demande d'interruption de grossesse abusive, puisque la loi le permet. Et c'est toute la problématique de cette extension de 15 jours, qui peut sembler mineure, mais qui a une répercussion qui n'est pas du tout, je dirais, insignifiante. Dans le même temps, le professeur Friedman, chef de service de l'hôpital de gynécologie de l'hôpital Béclair, mettait en garde contre une recherche de l'enfant parfait grâce aux propriétés de l'échographie, donc une sélection, je dirais, d'un enfant sur des critères morphologiques acceptables, avec bien sûr tous les risques de dérives possibles sur les limites de ces critères acceptables. Mais pour un inconscient, un enfant parfait n'est jamais que l'enfant fantasmatique que les parents ont en eux, qui est le reflet des projections de leurs propres parents sur eux. Donc de toute façon, il s'agit d'un enfant fantasmatique qui ne s'inscrit pas dans le réel, qui n'est pas de l'ordre du réel. Donc on ne peut pas parler d'enfant parfait. Donc l'échographie, elle s'inscrit donc comme une technique de plus donc dans le suivi d'une grossesse. Et il serait illusoire de penser qu'une échographie normale puisse être le garant donc d'un enfant sans problème. Les images nous parviennent donc à travers le filtre d'un écran qui peut révéler ou masquer un symptôme. Donc c'est l'exemple du film de Julia que vous avez donc depuis le début de la journée qui est projeté sur une échographie qui manifestement aurait dû apparaître, a réussi à traverser 5 échographies. Alors une, on peut comprendre, 5, ça semble quand même spectaculaire. En fait, l'anomalie au niveau inconscient représente le symptôme transgénérationnel. Donc l'inconscient transgénérationnel, au travers de l'enfant, va se débrouiller pour ne pas être dépisté et pour laisser le symptôme naître. Cet écran donc, que va choisir l'inconscient peut prendre bien évidemment l'apparence de l'appareil échographique qui va laisser passer une malformation normalement dépistée, mais il peut aussi choisir de prendre l'apparence d'une malformation génétique qui apparaîtra après la naissance, avec donc tout ce qui est anomalie du génome. Ce sont aussi les maladies métaboliques, où l'on sait que le handicap psychomoteur de l'enfant va apparaître après sa naissance, et je dirais même souvent dans un sens régressif, au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Donc à ce moment-là, l'écran, il est sur le choix, je dirais, de l'anomalie en elle-même. Donc cet écran, c'est une stratégie que l'inconscient de l'enfant va mettre en place pour vivre et donner toute possibilité à ses parents de s'interroger. Quelle que soit la décision prise et des parents, donc ils vont être éclairés par le centre diagnostic prénatal. Il est vrai qu'en matière d'avortement thérapeutique, il y a à ce moment-là un entourage pluridisciplinaire qui est beaucoup plus important et qui se met en place avec des débats avec les parents, ce qu'on n'a pas au niveau de l'interruption volontaire de grossesse. Donc l'accompagnement se veut pluridisciplinaire pour une décision donc, qui est particulièrement difficile à prendre. Choisir l'avortement thérapeutique, donc déjà le terme thérapeutique pour la médecine qui se dit soignante, c'est déjà pas tellement le terme adapté. Mais sur un plan analytique, ça revient donc à étouffer ce symptôme transgénérationnel et à mettre en place un évitement. Donc éviter l'enfant anormal, c'est éviter le symptôme. C'est prendre donc le risque de voir celui-ci augmenter à travers les générations suivantes et s'amplifier. Mais choisir l'avortement thérapeutique, c'est aussi faire le choix de ne pas engager cet enfant dans un processus de vie difficile en sachant les limites des traitements et des soins médicaux par rapport à la douleur, par rapport aux rétractions tendineuses, en connaissance aussi, surtout pour les professionnels, des carences en matière de structures d'accueil sur l'ensemble de la France avec des répartitions tout à fait inégales et les problèmes, je dirais, de place pour les enfants lorsqu'ils sont à un âge plus avancé, qui ont un retard psychomoteur. Ça, ce sont des problématiques de terrain qu'on rencontre tous les jours, surtout au niveau du médecin généraliste. Donc c'est un choix qui devrait s'inscrire toujours pareil dans un travail sur soi-même pour lui donner sens et diminuer la culpabilité. Accepter de poursuivre la grossesse, donc c'est accepter le symptôme. Le suivi de cette grossesse et l'arrivée de l'enfant handicapé vont solliciter donc une équipe médicale pluridisciplinaire dans laquelle l'intervention de psychanalyste serait, à mon avis, intéressante, avec bien sûr participation du médecin de famille dans un travail d'aide à l'accueil de cet enfant, à l'accompagnement du deuil de l'enfant idéal, auquel s'ajoute la nécessité d'une aide à la déculpabilisation des parents. Donc, une prise en charge pluridisciplinaire dans laquelle je dirais que la structure analytique n'est pas encore très présente. Se positionner donc sur un avortement thérapeutique n'est pas une décision qui est facile à prendre, même si vous avez bénéficié de l'entourage d'un conseil génétique, d'un centre de dépistage prénatal, d'un éclairage médical détaillé. C'est un travail sur soi et sur son héritage transgénérationnel pour que cette décision puisse devenir un choix quant à soi avec une baisse de la culpabilité. C'est donc démasquer l'un des symptômes transgénérationnels pour se donner les moyens d'éviter les compulsions de répétition pour soi-même déjà dans sa propre vie et pour ses enfants à venir, mais aussi permettre à ses enfants, à ses descendants, de choisir ou non de récupérer le symptôme. Merci.
Intervention, question ?
Oui. Moi, je souhaitais vous demander peut-être quel était l'objectif, justement, de nous passer le film en boucle derrière vous.
Là, je vais passer la parole à Madame Calatayud.
L'objectif de passer le film en boucle. Ça, c'est une interrogation qui vous vient.
Oui. Merci. Oui, alors effectivement, cette question nous a été posée tout à l'heure, mais pas tout à fait de cette façon-là, c'est-à-dire pourquoi ce film, puisqu'en fait, effectivement, il pourrait à la limite s'apparenter à une interruption médicale de grossesse. Alors d'abord, c'est un film, bien sûr, qui est fait pour s'interroger, peut-être aussi de façon affective, bien sûr. Et pour que les questions, bien sûr, aillent toujours dans le sens du sens, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on voit bien que cet enfant n'aurait, a priori, jamais dû vivre. Et je disais tout à l'heure à une personne dans le public que justement, peut-être que toute la question se situe là, c'est-à-dire, et sans jugement aucun, quand on voit le nombre d'interruptions volontaires de grossesse qui sont faites de façon quand même relativement facile, qu'on le veuille ou non, alors qu'a priori ce sont des enfants qui vont bien, et quand on voit Julia sur cet écran, la question reste quand même d'importance. Alors pourquoi ce film en boucle ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet enfant quand même a mis beaucoup d'énergie en fait dans ce film. On lui a expliqué les tenants, les aboutissants. On a travaillé aussi avec les parents qui ont accepté d'ailleurs de façon très spontanée. Donc c'est la façon que nous avons, Psychanalyse Magazine et moi-même, donc de la remercier. Et puis c'était tout simplement l'induction d'aujourd'hui. Et puis peut-être effectivement, encore une fois, en voyant ces images comme ça en boucle, ce que nous souhaitons, c'est que les questions continuent après une journée comme celle d'aujourd'hui. Mais c'est à l'appréciation de chacun, bien sûr.
Pourquoi dites-vous que cet enfant n'aurait pas dû vivre ?
Elle est porteuse d'un spina bifida. Donc, c'est une pathologie qui s'inscrit dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse. Et vous n'avez peut-être pas vu donc, le film, mais les parents disent... Les parents disent maintenant que s'ils avaient eu connaissance donc de cette anomalie, ils auraient eu recours à une interruption donc médicale de grossesse.
Non, je disais que pour les parents, ça doit être un grand soulagement de pouvoir aussi faire partager leur choix à d'autres personnes et d'essayer de les convaincre, mais ça doit être quand même très lourd à vivre dans le quotidien. Je leur laisse ce courage.
Oui, c'est très lourd, surtout au fur et à mesure où Julia grandit. C'est-à-dire, tant qu'elle était bébé, elle portait des couches comme tous les bébés du monde. Donc les parents, c'était très net dans leur approche de cet enfant, ne voyaient pas en fait les conséquences quant à un avenir très difficile. Plus elle grandit, plus c'est difficile. Et puis c'est une enfant qui, bien qu'elle aille bien actuellement, mais a quand même une propension à décompenser très vite et à se mettre en danger dès qu'elle a une contrariété. Et donc les parents quand même vivent une certaine urgence avec elle, et effectivement c'est pas évident, puis plus toutes les conséquences bien sûr justement quant à sa féminité, etc.
D'autres questions ? Sur l'intervention du docteur Pesquet.
Oui, alors nous avons fini beaucoup plus tôt que prévu. Plusieurs possibilités, bien sûr, s'offrent là maintenant. Soit je crois que ça vous a été proposé tout à l'heure, vous pouvez nous rencontrer si vous en avez le désir, donc les intervenants ou même effectivement les membres de l'équipe de Psychanalyse Magazine pour des questions qui vous intéresseraient, ou si vous avez d'autres questions que vous aimeriez soulever. Je crois qu'il y a eu des questions d'ailleurs qui dépassaient un petit peu le cadre, m'a-t-on dit tout à l'heure, du thème de la conférence, mais nous sommes tout à fait disposés à y répondre autant que faire se peut. Donc c'est vous qui le choisissez, sinon on peut aussi se séparer là-dessus, bien sûr. C'est ce qui vous fait plaisir.
On peut peut-être donner le micro pour avoir des avis.
Oui, un peu d'ordre historique. La loi Avail a été modifiée en juillet 2001. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Parce que j'ai discuté avec monsieur là, avantage inconvénient. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement pour que vous modifiez, passiez de 12 à 14, d'aménorrhée, donc pour l'interruption de grossesse, l'entretien obligatoire qui n'est plus que pour les ados. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais bien savoir.
Va laisser répondre le docteur Cheyras.
En pratique, la motivation de la législation pour les gens qui défendaient l'allongement de la période d'interruption possible, c'était surtout le comparatif avec les pays voisins, qui obligeait un certain nombre de femmes en France qui n'avaient pas toujours les moyens de le faire, de devoir partir à l'étranger. Donc il y avait une disparité à ce niveau-là au niveau européen. Et donc ça a été l'élément qui était mis en avant le plus souvent. Par contre, d'autres éléments comme la suppression de l'entretien préalable n'étaient pas spécialement demandés, loin de là, par les professionnels. Au contraire, il a fait partie de la loi quand elle est sortie, avec d'autres éléments d'ailleurs. Les problèmes des mineurs étaient un problème qui est très discuté, qui continue à l'être, puisque vous savez qu'on peut très bien faire maintenant une intervention sous anesthésie générale sur une mineure sans avoir besoin d'aucune autorisation des parents. Et que l'accompagnant peut être n'importe qui. L'accompagnant peut être le petit copain qui a 18 ans et un jour. Et il reste en somme sur le dos des professionnels, finalement un petit peu dans la loi, avec les phrases qui existent, finalement d'apprécier, etc. Mais donc ce n'est pas malheureusement une possibilité pour le professionnel. Donc il y a beaucoup de choses dans cette loi qui semblent, enfin, à mon sens, très mauvaises, en régression énorme. Et en diminuant, en donnant l'impression de vouloir, disons, faciliter les choses pour les femmes, de leur ouvrir davantage le choix, en réalité, de leur supprimer beaucoup de possibilités par le biais de la suppression de cet entretien, par le biais du développement à domicile du RU, qui, je crois, est une énorme erreur dans ce qui est fait. Le RU, on en a parlé, vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais en fait, le RU, il est pire que ça, je trouve. C'est-à-dire qu'on prend d'abord les comprimés de Mifégine, mais on a ensuite un autre médicament qu'on va utiliser à 36 ou 48 heures plus tard. C'est-à-dire que la femme vit en ayant pris déjà sa Mifégine et en sachant qu'on a toujours un gamin qui est vivant, qui va bien. Et en fait, on a parlé d'empoisonnement à un moment, c'est tout à fait le sentiment qui peut ressortir à certains moments. Et je crois que ça doit être... Je ne suis pas une femme, mais je pense que ça ne doit pas être très bien vécu. Alors jusqu'à présent, le deuxième médicament qui donnait lieu à l'expulsion de l'embryon normalement tué, entre guillemets, par les comprimés de Mifégine, se faisait en milieu hospitalier. Il y avait une obligation d'hospitalisation qui avait été réduite d'ailleurs depuis 2 ans, je crois, à 3 heures, une demi-journée, 3-4 heures, aucune importance. Et même cette obligation a disparu. C'est-à-dire que maintenant, avec la législation, vous donnez à la femme ses comprimés qu'elle n'est pas obligée de prendre. Après tout, elle peut partir avec et les jeter. On lui donne également les comprimés les deuxièmes comprimés, si vous voulez, ceux qui servent à l'expulsion, elle part avec également. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas qui les prend, elle peut les donner à quelqu'un d'autre, finalement, qui pourrait les prendre. Elle peut avoir des accidents à domicile, et on a tous, enfin en professionnel, on a tous des souvenirs à 2h du matin de femmes ayant pris des RU et du Cytotec qui arrivent avec des hémorragies importantes, alors que personne n'est au courant, qu'il n'y a pas de bilan préalable, qu'on n'a pas de groupe sanguin, qu'on n'a rien du tout. Pour les familles, c'est encore pire quand elles ne sont pas informées devant des hémorragies qui peuvent être graves. Il n'y a plus de prise en charge, même si l'entretien reste obligatoire, théoriquement pour les mineurs. La jeune femme de 18 ou 19 ans qui n'est plus mineure peut très bien ne pas avoir d'entretien, donc pas d'information pour après. Et l'entretien post-IVG qui est énorme, même s'il est prévu toujours sur un plan théorique dans les textes, est très difficilement mis en place. Il n'y a pas eu un entretien pré-IVG avec lequel les gens ont pu avoir confiance en quelqu'un avec qui ils ont parlé, avec lequel ils accepteront de revenir plus facilement après l'IVG. Donc je crois que la loi, qui au départ est faite pour améliorer et permettre aux femmes d'avoir une plus grande liberté, en fait est porteuse d'énormément de conséquences négatives pour ces interruptions de grossesse.
Je voudrais savoir si cette obligation, cette nouvelle façon de donner la RU à la maison, comme vous dites, c'est obligatoire ou c'est, on peut laisser le choix à la personne. C'est ce qu'on peut, est-ce que la femme a le choix d'être hospitalisée ou d'être est-ce qu'on lui laisse le choix? Parce que les expériences qui ont été faites en Tunisie et à Cuba autour de justement l'interruption médicamenteuse à la maison ont montré que les femmes avaient un vécu différent, c'est-à-dire elles se sentaient plus dans leur intimité que si c'était difficile, c'était des fois plus difficile d'aller en milieu hospitalier que de rester chez elles, où elles pouvaient vivre ça au quotidien et peut-être pas rajouter de la culpabilité là où peut-être elles n'avaient pas à en mettre, parce que parfois on se culpabilise, on a honte d'aller donner son corps à quelqu'un. Moi je pense aux femmes qui passent au bloc, c'est pas toujours évident de se trouver dans cette posture pour l'aspiration, et que l'interruption médicamenteuse peut être un plus, et je dis bien pour certaines personnes, pour certaines femmes, et je pense que le choix peut-être être laissé. Je crois qu'on peut faire confiance peut-être à la femme qui accepte de le vivre comme ça, comme étant un choix supplémentaire. Et je pense qu'il ne faut pas trop fermer ça. C'est très difficile à accepter, mais moi, je pense qu'on peut peut-être le voir autrement. Je parle en tant que femme.
Oui, je vous comprends très bien, mais là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, la culture n'est pas la même. La Tunisie et Cuba, ce n'est pas tout à fait la culture française. Et je crois que dans certains pays, effectivement, de vivre comme un accouchement, d'ailleurs pareil, le vivre à domicile peut être beaucoup mieux vécu qu'en milieu hospitalier. Par contre, se pose quand même dans nos sociétés, disons plus performantes, quand même un problème de sécurité et des règles qui obligent quand même à se trouver, lorsque même le RU est pris à la maison et que l'interruption se fait à domicile, c'est sous réserve d'être à moins d'un quart d'heure d'un centre de prise en charge au niveau chirurgical en cas de complication. Deuxième chose, autant il est tout à fait intéressant de laisser prendre du RU à domicile, d'abord parce que ça soulage certains services hospitaliers, et le choix est toujours donné aux personnes et aux femmes, enfin je pense dans pratiquement tous les centres. C'est un intérêt pour la société au niveau financier, parce que ça diminue beaucoup le poids financier de l'interruption de grossesse. Autant je pense que ça ne peut se faire qu'avec une information très complète et une prise en charge un peu préalable. C'est-à-dire qu'un entretien très bien fait avant la prise de RU à domicile va donner lieu à une information complète, à une personne qui, en cas de problème, saura comment elle revient, etc., qui acceptera d'ensuite de recourir, peut-être, de pouvoir parler avec les gens qui l'ont prise en charge. Lorsque, par contre, elle sera faite, cette prise à domicile, d'une façon un petit peu clandestine, presque, avec la femme qui vient, qui n'a pas d'entretien, qui demande simplement ses comprimés, parce qu'elle peut très bien exiger que ça se passe comme cela, je crois que là, c'est une mauvaise chose.
Je crois qu'il en est de même pour la prise de certains médicaments. Moi, je pense à une personne qui est sous anticoagulant, qui se retrouve chez elle et qui ne connaît pas toujours les conséquences d'une prise d'anticoagulant. Tout médicament a effectivement effectivement un effet, parce que sinon on ne le prendrait pas. Et je pense que on a un peu de mal effectivement à voir ça comme ça, mais je ne peux pas imaginer qu'un médecin laisse une personne avec de tels médicaments s'il n'a pas évalué que cette personne était... Je veux dire, c'est difficile d'évaluer ce que pense la personne et ce qu'elle va faire, effectivement, qu'elle puisse prendre ou ne pas prendre, mais c'est du même... C'est pareil pour tous les médicaments qui sont un peu dangereux, et des médicaments dangereux dans toutes les maisons, il y en a énormément. On voit les suicides quand même avec des médicaments qui sont au quotidien donnés sans beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Je reconnais que là, c'est un peu particulier. Je titille un peu hein, quand même, parce que je me dis qu'on a besoin de réflexion et de réfléchir, effectivement. Mais c'est pour ouvrir un tout petit peu le débat autour de l'interruption de grossesse, qui reste toujours quand même très problématique en France. Et moi, je voudrais qu'on évolue un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a... Il y a des difficultés aussi pour des accouchements, pour des choses très, très, très particulières qui sont autres que l'interruption de grossesse. Mais moi, il me semble quand même que c'est un plus, et je suis d'accord qu'il faudrait un accompagnement différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se passe 5 minutes dans un cabinet de médecin, et que ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'il y ait quelqu'un, genre conseillère, psychologue, dans le cabinet du médecin au moment de la consultation, qui pourrait peut-être évaluer, proposer ou se trouver là si la personne a besoin d'aide. Mais c'est pour beaucoup de choses comme ça.
Alors la loi va dans l'inverse de ce que vous venez de dire, malheureusement, puisque donc l'ERU pourra être distribué par les médecins généralistes, qui les pauvres n'auront pas dans leur cabinet une conseillère conjugale ou une psychologue à proximité, sauf si les médecins sont eux-mêmes orientés analyse ou psy en général. Et avec la législation, ça sera vraiment dû à domicile pur la plupart du temps. D'autre part, on ne peut pas, je crois, comparer la prescription de médicaments avec les problèmes de RU. Les médicaments donnent lieu à une information complète. Ce sont des traitements qui sont prévus pour des longues durées ou moins longues, mais avec des possibilités de temps d'information qu'on n'a pas dans l'urgence, souvent, qui est pour le RU, où la possibilité de discuter n'est pas toujours la même et pas aussi longue de toute façon. Mais l'information doit être faite. Si elle n'est pas faite, c'est qu'il y a eu un manque quelque part. Elle est prévue par la loi, elle est faite par les médecins, je pense, d'une façon habituelle et normale. Hein. Tout à fait. Le RU n'a pas les mêmes dangers. Il faut être réaliste. Le RU n'a pas d'effets secondaires connus. Il n'y en a pas. Vous pouvez donner du RU, aussi bien à une époque, on disait qu'il ne faut pas faire d'intervention médicamenteuse aux femmes de plus de 40 ans, aux femmes qui fument. C'était complètement depuis abandonné. Le problème n'est pas le RU, il est le deuxième médicament qu'on leur donne. Il n'y a aucun effet secondaire du RU. Et le Cytotec... Mais même le deuxième médicament que l'on donne, il est prescrit, ça coûte 15 francs ou 20 francs la boîte de 30 comprimés, il est pris sans problème pour tous les problèmes d'estomac et sans avoir aucun effet secondaire pratiquement. Donc, pourquoi on ne donne pas plus souvent? On est pris par des limites de durée, on prescrit le RU sur des grossesses d'un âge relativement jeune pour avoir un pourcentage de bons résultats, c'est-à-dire jusqu'à une cinquantaine de jours, en théorie, la législation c'est ce qu'elle prévoit, ou 50, je ne sais plus, ou 51, aucune importance, pour avoir des taux de l'ordre de 85% de résultats positifs. Donc on est pris pour beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas le temps d'avoir une consultation, de décider, etc. C'est des jours d'aménorrhée hein, dont on parle. C'est-à-dire que si la femme s'en aperçoit, elle est déjà souvent à 36, 37 jours, il lui reste 12 jours pour prendre sa décision, et voir le médecin, prendre son RU, etc. Donc on est avec des limites de temps qui sont vraiment très très grandes. C'est la première raison pour laquelle on n'en donne peut-être pas suffisamment, c'est vrai. D'autre part, il y a une prise en charge qui est parfois plus difficile qu'une aspiration, qui est plus simple, entre guillemets, pour les médecins. Il faut bien reconnaître que dans certains centres, y compris dans le mien, on fait beaucoup d'aspiration parce que c'est quelque chose qui peut relativement bien se programmer. Alors que le RU est plus difficile de par l'urgence et de par parfois les effets secondaires. Et donc, il faut une très bonne organisation si on veut que les gens ne prennent pas de risques et que soi-même, parce qu'il faut aussi être réaliste, il y a le problème aussi du professionnel, de pouvoir répondre aux accidents possibles, entre guillemets, non pas du RU en tant que RU, mais de la fausse couche provoquée ou de l'avortement provoqué par le médicament qui nécessite une prise en charge qui peut être d'urgence majeure sur le plan hémorragique. Et à ce moment-là, il faut effectivement avoir une bonne organisation de services. Mais vous savez que pour les interruptions de grossesse, les gens sont mal organisés, qu'il n'y a pas beaucoup de services, qu'ils les font comme ils devraient le faire, qu'il n'y a pas toujours l'argent nécessaire pour avoir les personnels aussi qu'il faut, que beaucoup de médecins hospitaliers ne veulent pas les faire, que c'est souvent dévolu à des généralistes attachés, bénévoles. Et ce qui est très bien dans certains centres n'est pas du tout dans d'autres, malheureusement.
Oui, pour reparler un peu humanité, et pour avoir vécu donc dans des entretiens quand même des paroles de femmes, des paroles, leurs vraies paroles, de ce qu'elles disaient par rapport au RU, c'est qu'elles avaient vraiment l'impression d'expulser elles-mêmes, de se vider. On prend donc l'expérience comme ça du vide autour du ventre. Pour reparler aussi d'une expérience il y a 20 ans, quand même, personnelle, au centre hospitalier donc universitaire de Reims, dans la Marne, avec le professeur Val, qui a peut-être maintenant, je ne sais plus quel âge, mais néanmoins, où on accompagnait jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, la femme, c'est-à-dire que le lieu où les IVG par aspiration, où le RU existait beaucoup moins à ce moment-là, mais par aspiration se faisait, il y avait vraiment 5 minutes à y aller. Et le professeur qui les pratiquait, donc venez nous voir, venez voir la femme à l'endroit où nous étions, on repartait. Enfin, il y a vraiment, c'était vraiment un centre d'orthogénie, ce n'était pas appelé comme ça. Si vous pouviez me citer le nombre de services d'orthogénie qui existent en France, ce serait intéressant, Madame Calatayud, pour moi en tous les cas, parce que je ne sais pas, il y a Colombes, il y en a peut-être, il y en a-t-il combien actuellement ?
Non, je ne peux pas vous le citer. Par contre, tout à l'heure, une personne faisant partie du public y a fait allusion, alors qu'il y a peut-être des compétences dans ce domaine-là. C'est vous, madame, qui m'avez parlé tout à l'heure. Non, la dame qui est derrière vous. Mais on en a parlé ensemble. Oui, mais est-ce que, puisqu'on en a parlé, on y a fait allusion, est-ce que vous connaissez le nombre ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Il y en a pratiquement dans tous les services hospitaliers d'une bien compétence actuelle. Des centres d'orthogénie, entre guillemets, c'est-à-dire des centres de planification et d'éducation familiale attachés à un centre d'orthogénie. Le centre d'orthogénie, ça peut être un grand centre d'orthogénie, mais c'est très souvent un petit centre. Un petit centre, c'est-à-dire qui pratique des interruptions volontaires de grossesse d'une façon réglementaire, et tous les hôpitaux publics doivent pouvoir assurer cette activité. Depuis la dernière loi, en étant rattaché au service de gynéco-obstétrique, et depuis la loi Veil, depuis 1975, qui devait être rattaché au centre hospitalier, pas forcément au service de gynéco-obstétrique, mais qui devait être rattaché. Et des places étaient spécifiquement prévues dans tous les hôpitaux publics.
Alors dans l'Essonne, en tous les cas, pas où nous n'avons pas cette expérience, docteur. On le regrette d'ailleurs.
Comment ? Je n'ai pas compris.
Dans l'Essonne, nous n'avons pas ce type de j'entends très bien ce que vous
Alors, dites. Il y a des départements, mais c'est très vrai ce que vous dites, mais quand on parle d'interruption de grossesse, on ne peut pas comparer. Vous avez des endroits où c'est fait de façon nulle, lamentable, des endroits où c'est très très bien pris en charge. Il y a des départements où il est impossible d'avoir une interruption de grossesse. Dans la région PACA, vous avez des grandes villes où il est impossible d'avoir une interruption de grossesse parce que les rendez-vous sont donnés aux gens au-delà de la limite légale.
Exact.
Donc les gens vous disent, ah mais on n'est que deux à travailler, qu'est-ce que vous voulez, les rendez-vous sont pris sur 2 mois, on vous le donne dans 2 mois. Elles ont déjà dépassé les limites légales. Évidemment. Donc c'est vrai que tout est cas particulier. C'est un peu une des raisons pour lesquelles la loi était un peu modifiée aussi.
D'accord, merci.
Quel est le coût d'une IVG ? Alors le coût d'une IVG, c'est...
Le coût d'une IVG est fonction de la durée d'hospitalisation. Des prix sont prévus, et les prix sont prévus par la concurrence et les prix, en fait. Ce ne sont pas des prix de sécurité sociale. Ce sont des prix qui sont fixés par le ministère au niveau de la concurrence et des prix. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas dépasser ce prix. Vous savez qu'il y a des secteurs libres chez les médecins, etc. Normalement, ils ne devraient pas prendre plus cher que le prix qui est prévu dans les textes, puisque ça dépend, concurrence et prix. Ce n'est pas un problème de sécurité sociale d'être en secteur 1, secteur 2, etc. Bon, quoi qu'il en soit, le coût, il tourne pour des hospitalisations de moins de 12 heures. Moins de 12 heures qui sont donc les habituelles, que ce soit même les aspirations. Elles rentrent le matin, elles sortent en début d'après-midi, hein, restent quelques heures. Sous anesthésie générale. Quand c'est en local, c'est pareil, je veux dire. Donc les hospitalisations de plus de 12 heures, c'est rarissime. Moi, je n'en ai jamais eu, peut-être depuis 2 ou 3 ans. Donc, sur ce plan-là, les coûts doivent être de l'ordre d'un peu moins, je crois, de 1000 francs, 1000 ou 100 francs, quelque chose comme ça. C'est à peu près le tarif. Hein, ouais. Francs, excusez-moi, je ne parle pas en euros. Hein. Pas en euros, en francs. Non, c'est pas cher. C'est pris à 80% par la Sécurité sociale et remboursé par les mutuelles. Mais il y a une enveloppe spécifique au niveau de l'État qui rembourse la Sécurité sociale. Bien sûr, si les gens ne peuvent pas payer, mais de toute façon, les gens sont pris en charge gratuitement en totalité, que ce soit une mineure, que ce soit un avortement sous X, parce que c'est comme pour l'accouchement, on n'a pas besoin de donner son identité pour une interruption de grossesse, y compris pour une mineure maintenant, la prise en charge se fait en totalité par l'établissement. Ça a toujours existé. Avant qu'existe le remboursement par la sécurité sociale, il y avait un système de prise en charge très rapide par la protection maternelle infantile. Et on avait en 24 heures une autorisation financière de prise en charge et l'hôpital le pouvait assumer et était remboursé par la PMI. Hein. Avant qu'existe le remboursement de la loi Veil, le remboursement des interruptions de grossesse.
Une petite remarque, on a beaucoup parlé des femmes, des enfants. Je trouve que le grand absent, quand même, c'est l'homme ici. Quel est le vécu de l'homme face à l'IVG, face à tout ça? C'est vraiment, je trouve qu'il y a un grand absent, c'est le monsieur là.
Moi, je dirais que j'en ai moins parlé. Donc, au niveau de l'avortement thérapeutique, j'ai parlé des parents. J'ai pas parlé de la femme seule, hein, déjà. Au niveau de l'interruption... Mais au niveau de l'interruption volontaire de grossesse, moi, j'avais réfléchi à ce problème parce que j'avais été à une réunion du planning familial à Marseille en mars, justement, où on discutait beaucoup de la femme et pas tellement de l'homme. Et c'est vrai que, en fait, comme l'interruption de grossesse peut se mettre, sans l'accord de l'homme... on retourne toujours finalement sur la femme. Donc c'est pour ça que je disais qu'au niveau des entretiens, de temps en temps, on voit arriver les partenaires. Donc à ce moment-là, on a une discussion avec les deux. Mais le nombre de fois où je vois des femmes toutes seules, quelle que soit leur décision et quelle que soit leur raison, parce qu'il y a ce qu'elles vont expliquer de leur situation qui n'est pas forcément la réalité. Hein, donc c'est toujours. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai beaucoup plus axé sur la femme.
C'est comme ça que je dois faire. À vous, madame, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais vous avez dit quand même que le nombre d'interruptions de grossesse avait augmenté ou est stable depuis un certain temps. Alors, qu'en est-il de la politique de planification des naissances, des centres de planning familial en France? Bon, vous avez évoqué quand même les résistances possibles à la contraception. Mais alors, parce qu'on a bien vu qu'en Hollande... en libéralisant donc l'avortement même jusqu'à 22 semaines et en pratiquant une politique de planification des naissances, une contraception accessible, voire gratuite, le nombre d'avortements a diminué. C'est le pays le plus bas en Europe.
Dans le rapport Nissan, justement, donc ils expliquaient en fait que si on développait vraiment considérablement encore les moyens d'information en matière de contraception, on aurait quand même une baisse du nombre d'interruptions de grossesse, mais je dirais pas spécialement significative en rapport avec l'importance des moyens qu'il faudrait se donner. Et comme de toute façon au niveau inconscient, le problème il est sur le positionnement inconscient. Conscient, on est sur une rationalisation, inconsciemment, donc on est sur un désir d'enfant qui passe par un désir de maternité. Donc je dirais, bien sûr, on peut faire une campagne de contraception très efficace. On va récupérer une baisse peut-être du nombre d'IVG, mais ce ne sera pas significatif parce que l'inconscient sera toujours là et c'est lui qui dicte nos actes, en fait. C'est lui qui nous guide. Et on aura toujours les mêmes histoires de pilules qui n'est pas prise. Et j'entends toujours les mêmes discours parce que ces femmes qui vont venir, qui vont me dire « j'ai fait un break pendant un mois ou deux de la pilule », à chaque fois, je leur explique la même chose, mais elles continuent.
En bas âge, il y a une politique bien moins hypocrite, il y a moins de tabous qu'en France et c'est sûr qu'il y a moins d'IVG. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, c'est un propos qui n'est pas du tout justifié.
Est-ce qu'on n'est pas sur une culture différente et sur deux pays différents aussi?
Très certainement.
Attention, parce que là, vous partez sur... Mais non, mais là, voilà, vous êtes sur deux pays différents avec deux mentalités.
Non, mais l'inconscient, il a bon dos. Hein. L'inconscient, il a bon dos. Je pense qu'il faut quand même faire...
Oui, mais l'inconscient, il est là tout le temps dans tout ce qu'on fait, hein.
Je me permets d'intervenir. Je suis d'accord avec toutes les deux. C'est-à-dire qu'en Hollande, il y a une culture tellement différente. C'est-à-dire que l'acte sexuel, il est banalisé depuis la petite enfance. Il n'y a pas du tout de tabou à ce niveau-là. On le voit, il n'y a plus d'infection transmissible au point de vue sexuel en Hollande. C'est pareil. Il n'y a aucune culpabilité, c'est vrai, en Hollande. Ils prennent très bien la contraception, il n'y a pas de problème. En France, notre culture, elle n'est pas encore là. Donc, l'inconscient, effectivement, en France, il joue beaucoup, je crois. D'accord, c'est-à-dire que vous avez tous les deux raisons, là. Okay, okay. Mais la Hollande est vraiment, je vous dis, on n'a plus de MST. Hein, Hollande. donc, de maladies sexuellement transmissibles. Hein. Il y a en plus l'habitude de ces pays, au niveau culture, de tout à fait s'engager dans le dépistage, dans les recommandations qui sont faites à un niveau national. En France, on fait l'inverse. Hein. On vous dit qu'il faudrait arrêter de fumer, tout le monde se met, se met à fumer. Mais on n'a pas cette mentalité. Nous, on est toujours contre. Finalement, ce qu'on nous demande de faire, vous allez dans les pays anglo-saxons, mais surtout dans les pays comme la Hollande, on dit qu'il faut faire un dépistage de masse du cancer du sein. Tout le monde va y passer. On va avoir 98% de la population qui va aller faire l'examen.
Donc l'éducation, c'est important. Hein,
voilà, c'est l'éducation, c'est toute cette culture qui est différente. Les gamins n'ont pas du tout de tabou au niveau sexualité, alors que chez nous, même chez les gens qui ne sont pas coincés, il y a quand même certains tabous qui persistent. On parlait de la chambre à coucher des parents tout à l'heure. Hein.
Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit. Je suis désolée, mais d'un point de vue analytique, ce que vous dites ne tient pas. D'abord, je voudrais revenir à cette notion d'inconscient. Depuis Sigmund Freud, on sait que les leviers de commande se situent au niveau inconscient. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui est incontournable. C'est une évidence. Bon. On parle de maladies psychosomatiques. Ensuite, Xavier Santoni et moi-même avons, dans le cadre de Psychanalyse Magazine, fait l'interview de Dave, le chanteur, il y a quelques jours. Et nous avons, puisqu'il est hollandais, nous avons abordé tous ces problèmes avec lui. Et je lui avais posé comme question, puisqu'il affiche son homosexualité sans aucune restriction, donc je lui avais demandé s'il avait effectivement reçu une éducation suffisamment moderne pour imposer finalement cette particularité. Il nous a expliqué qu'alors que ses parents étaient a priori très libéraux, il y avait eu quand même quelques difficultés. Et il a pris comme exemple, un jour il a téléphoné à ses parents pour leur présenter donc son ami. Et les parents ont été tout à fait d'accord, donc il y a plusieurs années de cela, hein, puisqu'il nous disait qu'il y avait 32 ans qu'il vivait avec le même homme. Donc les parents ont été tout à fait d'accord pour recevoir Patrick, puisque Patrick il y a, mais à condition qu'il ne couche pas à la maison. Et Dave a dit à son père, puisque c'est le père qui répondait, il lui a dit « Bon, ben, c'est très bien, je peux tout à fait comprendre ta réaction, mais je ne viendrai pas et nous ne viendrons pas. » Alors le père a raccroché et a rappelé Dave quelques minutes plus tard en lui présentant ses excuses. Mais on voit bien que de toute façon, les tabous échappent tout à fait à la conscience. D'abord parce qu'il y a un héritage transgénérationnel, j'en ai parlé ce matin, qui vient de très loin. Alors les mentalités sont pas prêtes de changer, c'est pas possible. On a l'impression qu'elles changent. Oui, mais je crois qu'on a essayé d'en débattre.
Si on ne fait rien et qu'on se dit c'est l'inconscience et la fatalité, c'est catastrophique. Il faut faire en sorte que le poids transgénérationnel soit allégé.
Oui,
hein,
mais
donc attention.
On a essayé, mais regardez aujourd'hui, on a fait allusion aux dérives.
On est à peine au début de la contraception. Oui. On est à peine à 20 ans. Vous vous rendez compte sur l'histoire de l'humanité? C'est tout récent, mais on y arrivera. C'est le but quand même, d'avoir le moins d'IVG, le moins de choses comme ça. Et on y arrivera.
Oui, on le souhaite, mais les statistiques ne vont pas du tout dans ce sens-là.
Je n'adhère pas là. L'inconscient, il y a quand même une éducation. Et effectivement, il y a le poids des générations et de la culture
générationnelle
et du reste. Mais on arrivera très certainement à avoir moins d'IVG.
L'inconscient, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, est modelé et conditionné par un héritage surmoïco-castrateur, donc avec un interdit sur le plaisir.
On pourra peut-être évoluer vers un sens où il y aura moins de pression de ce surmoi et je ne sais pas quoi. Enfin, je l'espère.
Non,
l'évolution de la société sera comme ça.
Là, c'est un autre problème. C'est-à-dire, en fait, pour qu'il y ait une levée, notamment de l'interdit en ce qui concerne le plaisir, il faut surtout que les parents ne prennent plus leur enfant comme un objet de possession. Ça a été dit aussi,
voilà,
notamment avec des processus de projection. Mais c'est tout le sens de l'analyse à aujourd'hui, justement, pour que les parents ne cherchent pas à s'approprier l'enfant. C'est surtout dans cette direction-là qu'il faut travailler.
Voilà, et que justement votre travail de psychanalyste et de vulgarisation de la psychanalyse, etc., ça va être d'aller dans ce sens, qui est moins une éducation mieux adaptée. C'est tout le travail de Françoise Dolto aussi, je crois. Hein.
Oui, tout voilà. À fait. Oui, tout à fait.
Oui, par rapport justement à toutes les réticences à la contraception et les oublis qui sont là justement par rapport à l'inconscient, moi j'ai souvent des réflexions que j'aimerais partager par rapport à la nouvelle méthode contraceptive qui est l'implant. Donc moi, souvent, ça me pose question justement par rapport à cette non-possibilité de l'oublier, puisqu'il est là pour 3 ans et que donc qu'est-ce que c'est une réflexion que.
Oui, mais c'est pas, enfin c'est pareil. Je veux dire, c'est il y a une non-possibilité de l'oublier, mais c'est la femme qui va demander à le prendre, donc qui va par un parcours en arriver à mettre en place l'implant. Donc c'est son chemin à elle qui va la conduire sur l'implant. Donc c'est qu'à ce moment-là, elle est prête pour ce, elle est prête.
Je crois que c'est pas si clair que ça. Enfin, je pense pas. Ça lui est proposé, ça ne lui est pas. Lorsqu'elle ça lui est proposé, bon, elle apprend. Je sais pas si c'est vraiment.
Mais c'est proposé. Enfin, c'est quand même proposé. C'est quand même quelque chose qui normalement elle doit pas y arriver d'entrée. Je veux dire, il y a quand même un déroulement sur des essais de contraception avant de mettre en place l'implant.
Il faut que les techniques contraceptives évoluent, ça c'est au niveau médical. Le jour où il y aura par exemple un système de stérilet sans danger, je suis absolument persuadée qu'il y aura moins d'oubli de pilules, parce que c'est quand même lourd à prendre une pilule. Hein.
Les stérilets sont mis dans les pays style la Hollande, dont on parlait tout à l'heure, chez les gamines mineures, depuis des années. Ce sont les mêmes stérilets dont on dispose en France. Alors, c'est pas qu'on peut pas, c'est que la plupart des gynécos n'en mettent pas. Moi, je mets des stérilets chez des filles jeunes, à partir du moment où elles n'ont pas de grand risque de MST. Parce que le problème du risque du stérilet sur une fille qui n'a pas d'enfant, c'est des problèmes souvent de tolérance un peu moins bonnes et un risque en cas d'infection gynéco, non pas provoquée par le stérilet, mais accompagnant la présence du stérilet, parce que c'est une MST qui lui est transmise, c'est le cas des chlamydies essentiellement, etc. Et c'est à ce moment-là un risque qui est important pour sa fertilité secondaire. C'est pour ça qu'en France, on a pris l'habitude de ne pas mettre, et les gens disaient, il ne faut pas mettre de stérilet à des gens qui n'ont pas eu d'enfants, pas seulement des jeunes filles d'ailleurs. En réalité, ce sont des gens qui sont intelligents, informés, etc., et où le risque de MST, c'est-à-dire si elles n'ont pas six partenaires, est quand même limité, à ce moment-là, on peut leur mettre des stérilets. J'ai mis beaucoup de stérilets sur des filles sans enfants, sans jamais d'accident secondaire. Donc, ce n'est pas uniquement ça. Pour en revenir à l'implant. L'implant, non, je crois, a peut-être été présenté d'une façon idyllique par le laboratoire qui l'a commercialisé. Les implants, ça existait il y a 35 ans. Hein, on les mettait chez les femmes ménopausées, etc. Moi qui suis vieux, j'en mettais il y a 30 ans, ou même plus que ça. Sur un plan pratique, ce n'est pas une excellente contraception. C'est une contraception qui n'a d'intérêt que si une autre contraception simple ne peut pas être utilisée. Les inconvénients des contraceptions, c'est l'oubli accidentel, d'accord, mais souvent l'oubli n'est pas vraiment accidentel. Là, je rejoins probablement ce que pensent les petits souvent. Eh bien, l'implanon, si une femme dit j'arrête ma pilule parce que je ne la supporte pas, elle ne supportera pas mieux l'implanon. L'implanon, c'est un produit qui entraîne beaucoup de troubles au niveau des règles, au niveau de petits saignements, au niveau de gonflement, c'est-à-dire de petits troubles de type progestatif, ce qu'on appelle la progestérone, si vous voulez, qui n'est pas très bien vécu. Ce n'est pas quelque chose, je trouve, qui est très intéressant comme contraception. C'est une contraception intéressante chez des gens qui ne peuvent pas en avoir une autre. Vous prenez le stérilet à la progestérone actuellement, qui ne fait pas du tout saigner, sauf les premiers mois de pause, je veux dire, mais qui la plupart du temps est assez bien toléré, qui donne exactement les mêmes avantages et qui en tout cas ne fait pas plus saigner que l'implanon, bien que l'un soit dans la cavité et l'autre soit sous la peau de votre bras. On a actuellement des contraceptions qui peuvent être réellement assez bien adaptées et des produits comme l'implanon, je trouve, ont plus d'inconvénients probablement, je crois que davantage. Et une fois, quand l'implanon a été commercialisé, on a eu beaucoup de pauses d'implanon. Et maintenant, on en retire souvent, alors beaucoup plus qu'on en met. Hein, c'est pas l'idéal comme contraception, hein, pas l'idéal. Alors là, je crois très sincèrement sur un plan médical qu'elle a tort. Hein. Elle a tort, c'est pas une contraception de première intention sur une jeune fille. Là, je crois que c'est une erreur médicale. Hein, là.
On parle beaucoup de contraception, contre la conception, mais est-ce qu'il ne serait pas peut-être temps d'inverser les mentalités et de parler de l'évocation des désirs et de parler des désirs chez les jeunes, si vous voulez. Je crois qu'on, dès qu'on parle de sexualité, on parle contraception, mais on va contre nature. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'éveiller à sa propre sensibilité, ses propres désirs? Est-ce qu'il serait quand même plus positif que d'être contre tout le temps?
Enfin, moi, j'avais envie d'intervenir, justement, mais un peu dans ce sens-là, bien qu'en apparence, ce soit très différent. Il ne suffit pas de, là, je m'adresse donc à l'intervenante précédente, il ne suffit pas de mettre un stérilet pour que les choses se règlent. Ça a été induit tout au long de la journée. Il y a un moment pour cela, il faut en discuter, etc. C'est ce qui renvoie en analyse à ce qu'on appelle donc la maturité pulsionnelle. Et je vais vous prendre un exemple tout à fait éloigné donc de ce dont nous parlons, mais qui m'a beaucoup interpellée en consultation. Je suis depuis plusieurs années maintenant une jeune femme obèse. Et elle est arrivée un jour en me disant « Voilà, je me suis fait mettre un anneau pour maigrir ». Donc elle me l'a présenté comme cela. Effectivement, cette jeune femme a commencé à maigrir. Lorsqu'elle est venue en consultation, son couple fonctionnait très bien. Petit à petit, au niveau sexualité, les choses se sont dégradées. Elle s'est retrouvée enceinte, sans désir de grossesse apparent consciemment. L'enfant est né polymalformé et est décédé à l'âge de 3 semaines. C'était au mois de janvier 2001. Le couple est en instance de divorce. Donc il ne suffit pas de se faire placer un anneau pour maigrir. Il est bien évident qu'on voit qu'il y a un lien entre l'alliance... Oui, mais j'essaie de vous expliquer ce qu'on appelle un déplacement en analyse et un évitement. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement, le terme vient d'être utilisé, c'est ce qu'est un désir. C'est-à-dire que cette femme était grosse, donc elle était enceinte. Il y avait effectivement un problème d'alliance, d'anneau. Et actuellement, nous travaillons là-dessus. Donc il est bien évident que je pense que l'approche qu'elle a eue avec son médecin à ce moment-là est une approche qui est très discutable de toute façon. Donc ce n'est pas le moyen, si vous voulez. Effectivement, c'est le moment, ce sont les conditions, c'est le dialogue qui sont importants.
Concernant l'implant, non, je souhaitais ajouter juste un élément d'information ou un peu d'huile sur le feu, je ne sais pas. J'ai le cas, Marie-Claude Lausanne, psychanalyste, psychothérapeute. J'ai le cas d'une cliente qui a fait récemment une jeune cliente qui a fait récemment sa troisième IVG. Sa sœur en ayant fait une, donc deux sœurs dans la même famille, une en a fait une et l'autre en a fait trois, suite à un implant qui a été posé par un médecin qui, paraît-il, a eu plusieurs cas d'échecs et de grossesses qui se sont déclenchés après la pose de cet implant, à peu près une dizaine, je ne sais plus le chiffre exact, ceci dans un temps relativement court. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu erreur technique ou est-ce que là encore c'est l'inconscient qui a agi. En tout état de cause, ça confirme un petit peu ce que vous disiez, et à savoir que ce n'est pas forcément une contraception, je ne sais plus quel était votre terme, enfin... Ce n'est pas forcément la meilleure contraception en termes d'efficacité déjà. Et même si elle est considérée comme un barrage, comme un barrage extrêmement efficace par rapport à la survenue d'un enfant, ben, dans certains cas, ça ne fonctionne pas.
Je suis tentée depuis le début de la journée de vous apporter mon témoignage personnel, mais néanmoins il y a quelque chose qui me pose question puisque vous aviez dit que nous étions enregistrés. Et je pense que ça peut me mettre en difficulté par rapport à ma pratique professionnelle. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est possible d'interrompre donc la prise de son par rapport à non.
Parce que là, on n'entend pas les questions, nous d'ici, on est très gênés parce qu'on n'entend pas.
Alors,
les questions.
Je rapproche ma bouche du micro. Je suis tentée depuis le début de la journée de vous apporter mon témoignage personnel. Néanmoins, comme j'ai cru comprendre que vous enregistriez donc la journée, je me dis que parce que ça va vraiment, comment dirais-je, depuis le début, si vous voulez, on sent que ça monte. C'est pas une tension qui monte, mais quelque chose d'une vérité de chacune ou de chacun. peu exprimée par les hommes, qui sont, j'ai entendu un monsieur qui voulait peut-être dire quelque chose et qui, quelquefois, était gêné. Ce que je vous demande, la question, c'est si je pose mon témoignage personnel actuellement, est-ce que ça sera entendu parce que ça, j'ai une pratique professionnelle qui ne me permettait pas ça?
Oui, ça sera oui. entendu.
Ça sera entendu. Bah alors, je ne la dirai pas. Merci, madame.
Autre question ?
Voilà, donc on me demande les conclusions, bien sûr. Je voudrais d'abord vous remercier, c'est tout à fait sincère, de votre présence, de la qualité de votre écoute et de la qualité de vos questions, et c'est tout à fait sincère. Bien sûr, ça vient d'être évoqué, tout est enregistré, et pour l'équipe de Psychanalyse Magazine, vos réflexions sont un apport qui est très important puisqu'on en tient compte, et c'est des choses que vous pouvez déjà, si vous avez assisté à des conférences, ou que vous pourrez sentir, bien sûr, dans le contenu des articles.